Bonjour Yann, merci d'être là pour cet entretien. Donc, peux-tu te présenter s'il te plaît, nous raconter un peu plus sur tes domaines de recherche, quel est ton parcours ?
Je m'appelle Yann Mercier-Brunel, donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant dans le premier degré, puis j'ai été amené à enseigner les mathématiques dans le second degré à quelques reprises, et à la suite de reprises d'études, j'ai soutenu une thèse en sciences de l'éducation qui m'a permis d'intégrer l'Université d'Orléans en tant que maître de conférence. Et puis, dans une seconde partie de ma carrière, j'ai été amené à être vice-président de l'Université d'Orléans en charge des formations. Et actuellement, je travaille au Haut Conseil de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, dans lequel je participe à l'évaluation des formations de certaines universités. Et mes problématiques de recherche portent sur l'évaluation et comment cette évaluation peut soutenir les apprentissages des élèves et des étudiants, ou au contraire, faire obstacle à ces apprentissages.
Justement, aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'évaluation dans l'enseignement supérieur ?
Alors, je pense qu'il y a deux grands enjeux dans l'enseignement supérieur. Le premier est de sortir d'une logique de sélection, qui est une logique qui est particulièrement importante en France. La France est un pays qui a construit son système scolaire, notamment autour des grandes écoles, des classes préparatoires, de la sélection. Et donc, on a d'ailleurs un outil, la notation sur 20, qui est un outil qui favorise cette sélection. Et à l'université, particulièrement en licence générale, cette logique de sélection est très présente, puisqu'elle conduit les équipes enseignantes à sélectionner année après année les étudiants, d'où le très fort taux d'échec en première année de licence générale en France, c'en est une des raisons. Le deuxième enjeu pour moi de l'université, c'est d'être beaucoup plus consciente des compétences transversales qu'elle permet de développer. Je pense que l'université est un milieu très académique qui a tendance, souvent, surtout dans les filières générales, licence, master, doctorat, de survaloriser les compétences disciplinaires et de sous-valoriser les compétences transversales, comme raisonner, argumenter, travailler en équipe. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu actuellement à l'université pour que ces compétences se développent et soient reconnues à l'université. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas dans les formations professionnalisantes comme les écoles d'ingénieurs ou les IUT. Et je pense que ça doit infuser maintenant les filières plus tournées vers la recherche, plus académiques, que sont les licences générales, les masters et les doctorats.
Peux-tu nous parler de la notation à l'université et quelles sont les alternatives, notamment à l'étranger ?
Alors, comme je l'ai dit, la France utilise un système de notation sur 20. Ce système de notation, qui est un héritage des grandes écoles, puisqu'il a été mis en place au début du 19e siècle par les grandes écoles pour sélectionner les candidats, il a été amené et introduit dans l'évaluation générale dans les premiers et seconds degrés en 1890. Et donc, ce système de notation sur 20, qui est très étendu, puisque l'échelle de notation sur 20 est très étendue, est une structure qui favorise, est un outil qui favorise la sélection. Finalement, quelle est la différence entre un 12 et un 12,5, hormis le fait que le 12,5 est supérieur au 12? Dans beaucoup de pays, la plupart des pays étrangers, hormis ceux qui pratiquent le pourcentage de réussite dans des évaluations de type QCM, la plupart des autres pays ont des évaluations avec des codifications beaucoup plus ramassées. Des codes vont de 1 à 6, par exemple, dans beaucoup de pays, notamment la Suisse. Et donc, cette volonté de notation, déjà, est ramassée parce qu'elle correspond davantage à des niveaux de maîtrise de compétences. Cette échelle de notes très étendue sur 20 points est un outil qui ne favorise pas cet élément-là. Par ailleurs, nos outils dans les universités, souvent, sont des outils qui requièrent ce système de notation. Des applications comme Apogée, utilisées dans les universités, requièrent la saisie de notes chiffrées, un petit peu tout comme Pronote dans le second degré l'exige. Donc ça veut dire que ça favorise une notation très étendue, donc ça favorise une logique de hiérarchisation des performances et moins une logique de maîtrise des compétences. Un étudiant qui, à ce jour, reçoit un 12,5 est rarement capable de savoir ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire, alors que quand un étudiant sur un système qui va de 1 à 4 ou de 1 à 6 recueille un 3 ou un 4, il a une idée, parfois, quand c'est associé à des indicateurs un peu précis, il a une idée de ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Donc, je pense que la logique de notation est un obstacle qu'il convient de dépasser, qu'il convient de dépasser avec de nouvelles applications de gestion. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'AMU à Paris, de travailler sur d'autres outils, mais aussi de certaines équipes pédagogiques qui, de plus en plus, contestent cette logique de la notation, particulièrement dans les formations professionnalisantes, que sont la licence professionnelle ou le master, où, pour le coup, on essaie de sortir de cette logique-là. Et je pense qu'un des enjeux de l'université là, est aussi d'accompagner ces équipes pour proposer des outils qui favorisent une autre approche que la notation chiffrée pour entrer dans une logique de compétences.
Y a-t-il des différences dans l'évaluation à distance par rapport au présentiel ?
Je pense que l'évaluation en présentiel est une évaluation qu'il est plus facile de contrôler. Il est clair que c'est plus facile de savoir si un étudiant triche quand on est en présentiel qu'à distance. Ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on évalue. Si j'évalue la capacité, par exemple, d'interagir, de répondre à des questions sur un sujet que j'ai préparé dans le cadre d'un exposé et d'un entretien, est-ce que véritablement je peux dire qu'il y a une différence entre cette évaluation en présentiel ou à distance? On a vu dans le cadre récent de la crise sanitaire que certaines auditions, certaines soutenances, certains oraux se passaient très bien à distance, modulo les problèmes techniques, il faut évidemment une bonne connexion, etc. Donc je dirais, plus qu'on évalue est complexe, plus le savoir et le savoir-faire est complexe, moins c'est problématique d'évaluer à distance, parce qu'on va évaluer sous la forme de compte-rendu rédigé, sous la forme d'interaction et de réponse à des questions, sous la forme de projet, de structuration, préparation et rendu de projet. Et là, pour le coup, la formation et l'évaluation à distance, elle peut se faire dans de très bonnes conditions. Donc je ramènerai la différence de l'évaluation en présentiel et l'évaluation à distance à la question de la complexité de ce qu'on évalue. Si on prétend évaluer des choses de plus en plus complexes, de réelles compétences des étudiants et des compétences complexes, comme argumenter, analyser, synthétiser, je pense que les outils changent. Mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Évidemment, si on est sur des maîtrises de bas niveau, comme la mémorisation, comme les QCM, oui, évidemment, il y a une différence. La différence étant le contrôle qu'on peut exercer sur l'épreuve.
Justement, si on parlait de compétences, pourrait-on évaluer par compétences à l'université ?
Non seulement on pourrait, mais j'oserais dire on devrait. Je pense que à l'université, on apprend plein de choses. Et que les savoirs académiques que l'on enseigne à l'université, qui sont des savoirs de haut niveau, qui sont des savoirs qui sont en perpétuelle évolution, c'est l'intérêt de l'université, c'est de travailler sur des connaissances actualisées et de haut niveau. Derrière cela, on apprend à en faire quelque chose. L'étudiant, il n'est pas là que pour mémoriser et emmagasiner des connaissances. L'étudiant, il va s'en servir pour comprendre, pour argumenter, pour modéliser des choses, pour proposer, pour créer. Je pense que l'évaluation par compétences, elle est fondamentale. Et dans une formation d'adulte, il me semble que ça devrait être la voie principale. Je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire à l'université d'un discours qui est centré sur l'acquisition de connaissances et la mémorisation de connaissances. Que ce soit en bac plus 3, en bac plus 5 ou en bac plus 8, on forme normalement des étudiants qui sont censés être capables de réfléchir sur ce qu'ils font, d'analyser ce qu'ils font et d'arriver à une certaine autonomie. Or, pour arriver à une certaine autonomie, il faut être conscient de ce qu'on apprend et de ce qu'on développe. On n'est jamais complètement compétent dans un domaine tant qu'on n'est pas conscient d'être compétent. Donc je pense que l'évaluation par compétences devrait être la règle à l'université. C'est d'ailleurs le cas, les réformes vont dans ce sens-là. La loi ORE pour le premier cycle universitaire, avec la déclinaison en bloc de compétences, qui maintenant s'étend à tout le système universitaire. On demande aux licences, aux masters, aux bachelors universitaires de technologie, même si ça, c'est plus facile parce que c'est codifié nationalement, aux écoles d'ingénieurs, on demande d'avoir des approches programmes où on travaille la construction de son enseignement par compétences, en fonction des compétences que les étudiants développent. Donc, à mon sens, c'est vers là qu'il faudrait aller. Et c'est sur ça qu'il faudrait baser, construire nos enseignements. Je pense que nos modules, nos syllabus devraient de plus en plus s'appuyer sur les compétences que développent nos étudiants. Et donc, pour moi, c'est le chemin que doivent prendre les universités françaises. C'est un chemin que beaucoup d'universités à l'étranger ont déjà pris depuis un certain temps, oserais-je dire depuis longtemps pour certaines universités. Et donc, il est important que la France y rentre de plein pied. Alors, c'est déjà le cas, pour partie. On a déjà des équipes très dynamiques qui ont compris l'intérêt, qui sont rentrées dans cette logique-là. Je pense que l'enjeu est absolument fondamental sur toutes les formations à visée d'insertion. Donc, dès lors où on est dans une licence professionnelle, dès lors où on est dans un master, dès lors où on est dans un doctorat, je pense qu'il est essentiel qu'on ait une logique de compétences et qu'on évalue par compétences pour que les étudiants comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font et puissent porter un regard évaluatif critique sur ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire encore.
Y a-t-il des spécificités de l'évaluation des compétences ?
La logique de compétence, c'est une logique de développement de l'étudiant. Elle s'oppose à une logique de la performance. C'est-à-dire que je ne peux pas réduire la compétence à des devoirs sur table ou à des examens. La compétence, elle se construit, elle s'accompagne. Ça veut dire que dès que je cible mon enseignement sur les examens, qu'ils soient contrôle continu ou contrôle terminal, dès lors que l'objectif de l'étudiant n'est pas de développer des compétences, mais de réussir ses examens, je rate quelque chose. Je rate quelque chose parce que je favorise de l'apprentissage par cœur, je favorise de l'entraînement et de la répétition d'exercices systématiques sans forcément comprendre ce que je fais. Donc, il est absolument essentiel de basculer dans une logique de compétences, c'est-à-dire de travailler sur ce qu'on appelle un alignement pédagogique, de permettre aux étudiants, en début d'enseignement, en début d'une unité d'enseignement, de comprendre ce qu'ils vont apprendre, pourquoi ils vont l'apprendre, en cours d'unité d'enseignement, de pouvoir faire des points d'étape où ils en sont. C'est l'objectif, normalement, du contrôle continu. L'objectif du contrôle continu n'est pas de faire une moyenne de notes intermédiaires, mais bien de faire des points d'étape pour savoir ce qu'il me reste à acquérir pour réussir l'apprentissage de l'unité d'enseignement. Et effectivement, à la fin, il faut une certification de ce qui a été appris, ce qui est maîtrisé dans le cadre de l'enseignement, mais ça arrive à la fin. Et ça reste dans une logique de compétences, et c'est, je dirais, la boucle est bouclée au regard des objectifs qui ont été présentés en début d'unité d'enseignement. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme à avoir pour passer d'une logique de performance, de la réussite à l'examen, à une logique de compétences. Qu'est-ce que j'apprends à l'université ? Pourquoi je l'apprends ? Quel est mon projet d'apprentissage ? Et donc, quel est mon projet personnel et professionnel ?
Peux-tu nous parler des difficultés pour mettre en place ce type d'évaluation à l'université ?
Je pense que les obstacles de la mise en place de l'évaluation par compétences à l'université sont surtout idéologiques, à deux niveaux. Le premier niveau, et c'est vrai qu'au départ, la compétence vient du monde de l'industrie, du monde du travail. Elle a été importée dans les autres champs sociaux, dont celui de l'éducation, à partir du monde du travail. Mais c'était quelque chose qui s'est passé dans les années 1920 à 1950. J'ose espérer qu'à l'université, on a évolué, et je sais qu'on a évolué, la recherche et aussi les pratiques ont largement évolué dans l'évaluation par compétences. Donc, il faut absolument arrêter de penser que l'évaluation par compétences est une forme d'instrumentalisation de l'enseignement universitaire au profit d'une société capitaliste. C'est faux. L'évaluation par compétences, elle est au profit de nos étudiants et du fait qu'ils comprennent ce qu'ils apprennent et qu'ils soient conscients de ce qu'ils apprennent et du sens que ça a et de la valeur que ça a. Un deuxième obstacle idéologique, c'est l'idée que parce que l'on évalue par compétences, on n'évalue plus les connaissances et qu'on abandonne les connaissances. C'est entièrement faux. quand on évalue une compétence, on évalue forcément en même temps la connaissance sur laquelle cette compétence s'appuie. Je ne peux pas faire un compte-rendu d'expérience ou une argumentation sur une question de socialement vive si je n'ai pas des connaissances derrière que je vais mobiliser pour expliquer dans le compte-rendu si l'expérience est réussie ou si elle n'est pas réussie, et pour le traitement d'une question socialement vive, si ça s'appuie sur des faits avérés, historiques, sociaux, psychologiques ou pas. Donc, le deuxième point idéologique à dépasser, c'est arrêter de penser que l'évaluation par compétence, elle est démagogique et le but, c'est que d'avalider pour tout le monde et que tout le monde réussisse. Ce n'est pas le cas. L'évaluation par compétence, elle est d'autant plus exigeante qu'elle s'appuie à la fois sur des connaissances, mais aussi sur la façon de s'en servir et la pertinence qu'on a dans la façon de s'en servir. J'ose espérer que toutes les connaissances qu'on enseigne à l'université servent à quelque chose. Elles servent à former un citoyen, un esprit éclairé, un professionnel, un être social, ça sert. Donc ces deux sauts idéologiques doivent absolument être effectués par l'intégralité de notre communauté universitaire. C'est fort heureusement le cas du plus grand nombre, mais il reste encore quelques poches de résistance. Et le problème, c'est que ça se fait toujours au détriment des étudiants.
Quelles évolutions on peut anticiper dans l'enseignement supérieur ?
Je pense que les principales évolutions vont aller dans la direction de la modularisation des parcours. Ça commence déjà avec la formation tout au long de la vie. On a des expériences à l'université comme les expériences de césure, dont de plus en plus d'étudiants s'emparent. Hein. Ils s'interrompent une année pour une expérience professionnelle, pour une expérience internationale, pour redonner du sens à leurs études. Je pense qu'en France, on a encore un tout petit peu l'illusion d'un parcours absolument linéaire, sans interruption. On vit encore mal, par exemple, à l'université, le fait qu'un étudiant puisse faire une première année, puis ne pas y trouver ce qu'il cherche et faire une autre première année ailleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment développer la fluidité des parcours. L'avenir est dans la fluidité des parcours. La fluidité des parcours en formation initiale, elle a un avantage qui est de permettre de donner du sens aux étudiants. Peut-être qu'on aurait moins d'étudiants qui sont en perte de sens, qui s'investissent moins dans les formations, si on leur laissait plus le temps et le droit de se poser des questions et le droit d'expérimenter avant de choisir une formation. Et si on leur proposait des dispositifs d'accompagnement, alors ces services existent dans les universités. On a des services d'aide à l'orientation et à l'insertion, mais souvent ces services sont sous-dotés en personnel. Il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de collègues qui sont dans ces services-là pour vraiment aider l'ensemble des étudiants à donner du sens à leur formation. Donc, je pense qu'en formation initiale, les accompagner dans la construction de ce fameux projet personnel et professionnel est quelque chose d'important. Mais pour moi, la vraie révolution, elle vient dans la possibilité de venir à l'université pour suivre quelques modules de formation, peut-être une année, mais peut-être moins, quelques modules, de les valider. Je pense que on se saisit assez peu à l'université des ECTS, hein, des crédits européens, et de cette possibilité qu'offre le système de venir capitaliser des crédits par petits paquets, par 5, 6, d'année en année, et de construire un projet qui pourra donner lieu, à la fin, à une diplomation. Alors, dès lors que ces modules sont cohérents, c'est-à-dire que ces modules, entre eux, font sens et correspondent bien à une licence professionnelle ou un master. Mais ça s'accompagne aussi. Est-ce qu'on est capable d'aider les usagers à construire un projet et à se construire un parcours pluriannuel de formation pour obtenir un diplôme ? Et avec cette idée de formation tout au long de la vie, pour moi, à l'avenir, dans un certain nombre d'années, on viendra faire un bout de formation. On ira dans le monde socio-économique, le monde social ou le monde économique. On découvrira ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. On reconstruira son projet et on reviendra à l'université pour compléter sa formation. Et on repartira. Et l'université a un avantage extrêmement puissant, c'est la diplomation. C'est-à-dire que l'université est une structure qui peut vous aider à obtenir des ECTS par petits bouts, et ensuite, si votre projet est cohérent, vous permettre par validation d'acquis et validation d'acquis et d'expérience, hein, puisque on reconnaît aussi l'expérience professionnelle, de diplômer. Et ça, je pense que c'est un rôle qui est extrêmement important, que quelqu'un puisse aller à l'université, obtenir par exemple un master, et ensuite revenir vers le monde socio-économique avec ce diplôme pour aller vers les recruteurs en disant « Voyez, j'ai une certification du niveau de qualification qui est le mien. » Donc, pour moi, les évolutions vont vers des évaluations qui sont des évaluations de compétences par bloc, qui sont des évaluations qui ne sont pas compensables. Il n'est pas pertinent que les mathématiques puissent compenser l'anglais ou que l'histoire puisse compenser la géographie. Je pense que suivant son parcours et suivant le diplôme que l'on vise, ça n'a pas forcément de sens. Surtout à haut niveau de qualification où on va vers quand même des spécialisations importantes. Et donc, une des évolutions majeures, c'est la modularisation des parcours pour avoir des diplômes qui soient modulaires. Et je dirais, la deuxième évolution à laquelle l'université doit participer, et je dirais même que l'université doit impulser, c'est la reconnaissance des compétences transversales développées par nos diplômes. Il me semble logique que quelqu'un qui obtient un doctorat en anthropologie ou en sociologie ou en psychologie puisse valoriser ce très haut niveau de qualification dans des domaines plus de management ou d'encadrement ou de marketing ou autre, même si évidemment ces champs-là ont des compétences spécifiques, et donc il y a sans doute des compléments de formation à mettre en œuvre, mais pour autant, quand on a une thèse, on sait réfléchir, on sait argumenter, on sait structurer, on sait persévérer, parce qu'une thèse, c'est quand même, voilà, c'est quand même des mois, des années sur un travail. Je pense que des deuxièmes évolutions, c'est que l'université communique sur les compétences, ce qu'elle développe chez ses étudiants, et à quel point elle développe des compétences de haut niveau, et à quel point le monde socio-économique aurait intérêt à regarder un doctorat, à regarder un master, pas uniquement sous l'angle du champ disciplinaire, mais aussi sur toutes les compétences qui ont pu être développées lors de ce master ou lors de ce doctorat. Des sociétés anglo-saxonnes sont déjà sur ce modèle-là. Et on voit des sociétés très prestigieuses recruter des docteurs ou des étudiants lauréats de second cycle à des hauts niveaux de poste parce qu'ils reconnaissent tout ce qui a été appris en soft skills, puisque c'est le terme valorisé dans ces pays-là. Donc, je pense que c'est aussi une des évolutions. Donc, voilà, pour résumer, formation tout au long de la vie et reconnaissance des compétences développées à l'université.
Est-ce que tu peux nous partager quelles sont les questions vives autour de l'évaluation aujourd'hui ?
Les questions vives, elles ont commencé à être lancées par un certain nombre de réformes assez récentes. Par exemple, la loi ORE, hein, Orientation et Réussite des étudiants, a imposé la déclinaison des modules de formation en blocs de compétences. Alors, ça se fait plus ou moins bien, hein, suivant les universités, ça se fait au rythme des équipes pédagogiques, il y a besoin de temps, il y a besoin d'appropriation, il y a besoin de réflexion, mais déjà, c'est un premier pas, c'est une première demande institutionnelle, hein, c'est une demande qui est forte et qui est dans des textes réglementaires, et donc déjà, il conviendrait de suivre cette évolution et de suivre les textes. On a une autre évolution majeure à l'université, c'est la réforme des bachelors universitaires de technologie. Dans les IUT, le cycle de 2 ans DUT suivi de licence professionnelle devient un cycle en 3 ans qui s'inscrit parfaitement dans le LMD, licence, master, doctorat, et qui s'évalue pour une part importante dans des situations d'apprentissage et d'évaluation, les fameuses SAE qui ont été mises en place dans les IUT. Là encore, ça demande du travail, ça demande des efforts, c'est compliqué, ça demande de concevoir sans doute autrement un certain nombre d'enseignements, parce que au nom de l'alignement pédagogique, l'enseignement et l'évaluation doivent être alignés. Mais c'est une évolution, oserais-je dire, une révolution extrêmement intéressante à suivre. Je pense que les évolutions, là aussi, du côté du master et des compétences en master, y compris des compétences académiques. Je pense qu'un master de physique fondamentale doit vraiment s'intéresser aux compétences qu'il développe, parce que un étudiant qui, y compris après un master de physique fondamentale, n'irait pas vers le doctorat, pourrait faire plein de choses et saurait faire plein de choses. Et pareil pour le doctorat, mais les formations doctorales, ce sont aussi des textes réglementaires, doivent se décliner en blocs de compétences, hein, c'est la réglementation. Donc, je dirais, les évolutions, elles sont déjà initiées, elles ont déjà été initiées. Maintenant, il conviendra de regarder ce que les universités en font. Et ce que les universités en font, c'est ce que les équipes pédagogiques en font. Parce que ce sont les équipes pédagogiques qui sont à la manœuvre. Donc certes, il y a un rôle des universités, des services centraux pour appuyer, accompagner, cadrer. C'est un rôle absolument fondamental. Mais il y a aussi le rôle des équipes pédagogiques de s'emparer de ces évolutions pour aller plus loin. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, la formation tout au long de la vie. Il faut absolument que les universités, que les formations s'ouvrent de plus en plus à la formation continue et s'ouvrent de plus en plus à la validation des acquis et de l'expérience. Et là, il y a un enjeu majeur. C'est aussi compliqué. Ça demande aussi l'appui des services centraux pour adapter les emplois du temps, pour travailler sur des modes d'accompagnement spécifiques, pour hybrider un certain nombre de formations, parce que quand on est en formation continue, l'hybridation est un levier puissant aussi. Et là, pour le coup, je pense que, pour moi, les chantiers sont en marche. Les chantiers sont amorcés. Il convient maintenant de savoir comment les universités françaises vont s'en emparer, lesquelles vont s'en emparer, et puis de voir avec quels résultats.
Merci beaucoup, Yann, pour cet échange très riche.